bienvenue sur la route 66, l'émission des musiques routes sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Et en route pour une nouvelle aventure musicale qui va aujourd'hui vous conduire sur les traces d'un artiste né dans la patrie des moteurs, puisque l'un de nos invités de la semaine a vu le jour dans la grande cité industrielle, Détroit dans le Michigan en 1941. En plus d'être le berceau d'entreprises telles que Ford ou General Motors, cette ville est aussi réputée pour avoir vu naître, au même titre que Chicago, le blues urbain, et l'un des guitaristes les plus doués et plus fins de sa génération, j'ai nommé Amos Garrett. Ce dernier a pourtant grandi à Toronto au Canada, où il s'est forgé une éducation musicale des plus solides, s'installant même un temps à Montréal afin d'y étudier le trombone et de s'y forger une solide réputation de guitariste. Sa carrière a pris son envol dès 1964 au sein du groupe de folk rock les Dirty Shames, avant de devenir l'accompagnateur du duo Ian and Sylvia. Installé à Woodstock en 1970, il y gagne ses galons d'incontournables musiciens en collaborant avec Paul Butterfield, Todd Rundgren, Jesse Winchester et bien sûr Maria Muldaur, dont le grand succès de 1974, Midnight at the Oasis, doit beaucoup à la patte de notre invité. Il a par la suite vécu à Boston, San Francisco ou Calgary, où il a fignolé son style inimitable. S'il a continué à faire profiter de son savoir certains artistes, alors je cite en vrac Doug Sam, avec qui il a fondé un trio signant d'excellents albums, Rodney Crowell, Bonnie Raitt, Emmylou Harris, j'en passe, et des meilleurs. Depuis plusieurs décennies, il mène une carrière solo qui l'emmène sur les scènes des quatre coins du monde, et je suis très fier de le recevoir aujourd'hui dans Route 66, celui que je considère comme une véritable légende de la musique américaine, Monsieur Amos Garrett. Welcome in your show, Amos.
Yes, nice to be here.
Alors, cerise sur le gâteau, Amos est venu accompagné par celui qui aurait pu inspirer John Landis pour son film The Blues Brothers. Depuis le début des années 1960, il parcourt lui aussi les routes du monde afin de propager la bonne parole des musiques roots américaines aux kids assoiffés de bons sons et de valeurs véhiculées par ses musiques. Il est aussi tourneur et s'il reste jeune, c'est au sens premier du terme qu'il peut se vanter d'avoir un sacré paquet de kilomètres au compteur. Après avoir traversé l'océan Atlantique à la nage, franchi le Kilimandjaro à pieds nus, s'être battu avec un lion à deux têtes dans une jungle du Bengale, affronté des déserts de sel et fait l'amour à 10 000 groupies en furie, et encore je ne compte que les vierges, il est de retour dans Route 66, celui que je considère comme un ami, voire un père spirituel, monsieur Alain Lightfoot Rivet. Bienvenue à toi encore une
Merci.
Fois dans l'émission.
Juste une pour corriger une chose, je ne suis plus tourneur maintenant.
Ouais, tu te consacres exclusivement
voilà,
donc,
au chant et à la musique.
Et à la musique, ok. Alors après la cerise sur le gâteau, hein, voici qu'on y ajoute un peu de chantilly, hein, puisque au surprise, s'est joint à notre petit rassemblement un artiste incontournable de la scène musicale française. Il a découvert le rhythm and blues et le rock'n'roll dès son plus jeune âge via une base américaine située à proximité de chez lui, lorsqu'il était enfant. Il est rapidement arrivé à Paris afin d'y entreprendre une formidable carrière d'organiste et chanteur qui lui a permis de se produire sur scène ou sur disque aux côtés des plus grands, hein, de Ray Charles à Johnny Hallyday, de Percy Sledge à Eddie Mitchell, en passant par Michel Jonas, Véronique Sanson, Beverly Joe Scott, j'en passe, et des meilleurs. Il n'a cependant jamais oublié ses racines et c'est toujours avec un grand bonheur que l'on peut le voir taper le bœuf sur un vieux blues à l'Utopia ou rendre hommage à la firme Motown au sein du groupe Desktops au baiser salé. J'ai nommé le plus sioux d'entre nous. Il parle même le Sioux, hein, il a même écrit un ouvrage à ce sujet. C'est Monsieur Slim Batteux, hein, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans l'émission afin d'évoquer rapidement son parcours. Et évidemment, je salue un autre invité surprise, Chris Méliès, le bassiste de tout ce joli monde. C'est donc un véritable remake des tontons flingueurs qu'on va vous jouer aujourd'hui, mais ce sera les tontons flingueurs du blues. Alors pour commencer, juste avant de passer un premier morceau d'Amos Garrett, Alain, Lightfoot Rivet, je voulais juste un petit peu te demander dans quelles circonstances tu l'as rencontré, puisque ça fait vraiment des années que... Et je sens aussi que c'est un artiste qui te tient particulièrement à cœur.
Oui, oui, Amos, c'est vraiment mon guitariste favori. Ça, je peux pas... J'adore les guitaristes en général, ça tu le sais. Mais Amos, c'est mon guitariste favori. Quand j'ai entendu les premiers titres qu'il a gravés comme accompagnateur avec Emmylou Harris ou Rodney Crowell ou Bonnie Raitt, j'ai entendu son son de guitare et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre, hein, qui joue de la guitare comme ça? J'ai lu la pochette, j'ai vu Amos Garrett, j'ai commencé à chercher ce qu'il avait fait d'autre. Et j'ai fini par tomber sur... je ne savais pas qu'il avait joué à l'époque dans le Paul Butterfield Better Days, qui était le deuxième groupe de Paul Butterfield. Mais par contre, j'ai trouvé son premier album assez vite, qui s'appelait Go Cat Go, et où il chantait, il jouait tous les titres instrumentaux et chantait. Et il y avait déjà une diversité d'approche de la musique américaine. Blues, rhythm and blues, country, folk, du rock décalé, enfin c'était vraiment un florilège. Puis après j'ai continué, et puis il se trouve que dans les années 80, quand avec Philippe Langlois, on a fondé donc Dixie Frog Records et qu'on est allé au Midem. On a eu la chance par des amis américains de rencontrer un Canadien qui s'appelle Holger Peterson, qui est le patron des disques Stony Plain, qui à l'époque est une maison jeune. Et j'ai dit à un de mes copains américains, j'ai vraiment Amos Garrett, j'aime vraiment Amos, et j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Et il m'a dit, mais je connais ce Holger Peterson, qui est le producteur d'Amos Garrett. Si tu veux, je te le présente. Et ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai appelé Amos, puis dès que j'ai pu, 91, the first time we worked together was 91, I think.
Yeah, 91. Yeah.
En 91, donc, j'ai organisé sa première tournée en France, avec son groupe The A-Team. Voilà.
Alors je vais profiter de ton infinie bonté et de ton anglais qui est bien plus perfectionné que le mien afin de poser une première question à Amos, afin d'entendre quand même un petit peu sa voix en ce début d'émission. À savoir, je vais simplement connaître un petit peu son enfance à Toronto, hein, parce que c'est vrai qu'il est né à Détroit, mais bon, il a très vite déménagé vers Toronto, et de la façon surtout dont il a découvert la musique qu'il pratique aujourd'hui.
So how did you discover in Toronto, I guess that's what David is asking. The music that you love and you're practicing until today in Toronto, how did the start for you?
Well, in terms of my blues and rhythm and blues side, it was American radio that we were in radio distance in Toronto of across the Lake Ontario. There's three American cities in upstate New York: Buffalo, New York, Rochester, and Syracuse. And we could receive radio stations there.
Donc c'était
in 1954, when Canadian radio didn't play the new rage of the era, which was rock, the earliest rock and roll. They didn't play it for a couple of years. They kind of resisted it.
Donc en 54, la radio canadienne jouait pas vraiment du rock and roll. Il aurait fallu 2-3 ans avant de s'adapter. Donc il a connu ça par les radios américaines qui émettait de l'autre côté du lac, Ontario.
Yeah.
Lake Ontario. De l'autre côté du lac et qui pouvait capter au Canada. Et là, par contre, c'est là qu'il a attrapé le virus du rock, du rhythm and blues, principalement à l'époque.
Et de quelle manière a-t-il été amené à pratiquer lui-même de la musique? Est-ce qu'il vivait dans un environnement familial?
Was your upbringing and surrounding very musical when you were a kid?
Yes, my parents were very musical. My father was a musician part-time when he was young. He helped work his way through university by playing in jazz bands.
Uh-huh.
And he had a huge, and my mother as well, they had huge record collections of jazz. It went back into the 1920s and stuff to traditional jazz, New Orleans jazz. And my father, when I was a child, there was a great jazz nightclub in Toronto called the Colonial Tavern, and all the great jazz groups came there and
played there.
It was legal for a parent to take a child to matinees at the Colonial and drink Coca-Cola, of course, and listen to the greatest jazz musicians that existed.
Okay.
And so my father took me to Colonial matinees all the time.
Donc, il a que par ses parents, il était dans le milieu musical. Son père était musicien à temps partiel et apparemment enseignait aussi à l'université, si j'ai bien compris. Sa mère et lui avaient une énorme collection de disques, principalement de jazz, qui remontait jusqu'aux années 20. Et il disait qu'il avait la chance aussi de pouvoir, avec son père, aller dans un club qui était le club le plus fameux de jazz à l'époque, qui s'appelait le Colonial Club. Et où les enfants pouvaient être admis s'ils étaient accompagnés de leurs parents. Donc ils pouvaient y aller et boire du Coca-Cola, mais ils pouvaient au moins rentrer. That was the difference with the American clubs, where I think no kids were allowed even with their father. Huh?
No, I don't know. It would depend state from one state to the next.
Donc ça dépend d'un état à l'autre aux États-Unis.
I don't know all the laws.
Okay,
stuff.
Okay.
Et est-ce que sa pratique du trombone est antérieure à celle de la guitare?
So what was your trombone learning before your guitar learning?
Yes, yeah.
C'était avant.
I started playing the trombone when I was 8.
À 8 ans, il a commencé.
And then I didn't touch a guitar till I was 13.
Il a 13 ans, la guitare.
1954, the advent of rock and roll.
En tout cas, quel chemin parcouru depuis. Et je propose tout de suite d'écouter un premier morceau de notre invité du jour. C'est le titre d'ouverture de, je crois que c'est son dernier album distribué en France, celui-ci.
C'est bien, c'est le dernier distribué en France, c'est pas le dernier.
Waterloo, c'est pas le dernier en date, voilà. Mais c'est le dernier que vous pouvez trouver encore chez tous les disquaires.
Ou le commander.
S'ils sont bien achetés, ou en tout cas commander sur les sites de vente par correspondance. Le titre s'appelle She Don't Go Nowhere, Monsieur Amos Garrett.
Well, she charms all the werewolves and lose all the ghouls. Dracula won't touch her, any man's a fool. But she's alright, she ain't too tight. She don't say nothing unless it's out of sight. And she don't go nowhere till the stars come out at night. She lays around all day, hates the night. It's poking and whiskey, make a wise man fight. But she's alright, she ain't too tight. She don't say nothing unless it's out of sight. And she don't go nowhere till the stars come out at night. Imagine trance. But to her that's nothing new, boy. No man stands a chance. Where she charms all the werewolves and lose all the ghouls. Dracula won't touch her, ain't a man's a fool. But she's alright, she ain't too tight. She don't say nothing unless it's out of sight. And she don't go no place, I tell you. Where she don't go no place without a little Amos. Where she don't go no place till the stars come out at night. That's right.
Vous êtes sur le 103.5 FM à l'écoute de Route 66, une émission que vous pouvez également retrouver en Mondiovision. On fait mieux qu'Elvis via le web www.rdl68.fr. L'un de nos invités du jour est toujours Monsieur Amos Garrett, ce grand chanteur-guitariste originaire du Michigan. Alors, pour poursuivre cet entretien, je voulais savoir quand est-ce qu'il avait réellement commencé à travailler de façon professionnelle. Et si c'était déjà sous son propre nom ou au sein d'un groupe.
What was your first professional gig, and was it under your own name or with a band? Or
depends on how you define professional gig. If it's for just playing a gig and getting paid, when I was in high school, playing trombone, for the most part.
Si professionnel, c'est être payé, même en jouant dans un orchestre. C'était à l'université à ce moment-là.
Yeah, en jouant du trombone.
En jouant du trombone.
Yeah, I got a job playing trombone in a Jewish society orchestra.
Dans un orchestre juif, dans les associations.
You know, social functions, so weddings, bar mitzvahs, sweet 16s. I'd get paid $5 a night, which is very good money in 1954.
I guess.
$5 there. $20 on New Year's Eve.
Et $20 pour le jour de l'an.
Huge money. But back then, you know, Volkswagen cost $700.
À l'époque, une Volkswagen valait $700. Alors, oui, $20 pour le premier de l'an, ça valait le coup.
Yeah, comme ça. But if you think in terms of when I became a full-time professional musician.
Mais à plein temps, par contre.
My first gig then, when I started my career, was at Carnegie Hall.
Au Carnegie Hall, carrément.
Yeah, first kid. Haven't been back since.
With a comedian, huh?
Yes. Okay. Von Meter.
Von Meter?
Yeah, as an opening act.
D'accord, c'était en ouverture, avec un ce qu'on appellera un comique, un amuseur, quoi, au Carnegie Hall, en première partie.
Yeah, and I was accompanying a singer-songwriter named Mike Settle, who wrote one small hit record, yes. He used to be in the Fifth Dimension with Kenny Rogers.
Yeah, and even before that, I think it was one of those folk outfits, and were like...
I don't think so.
Mike Settle, I'm almost sure.
Well, I was in his band. It was called Mike Settle and the Settlers.
But before that...
He was a Cherokee Indian.
C'était un Indien Cherokee qui s'appelait Mike Settle.
Full blood. And he wrote a hit record called Sing Hallelujah that Judy Collins had the hit of.
Que Judy Collins avait enregistré, ça s'appelle Sing Hallelujah. Mm-hmm. But you find his name co-signing all the stuff with the folk bands of that era. I remember the guy's name.
Yeah, well, the Fifth Edition became sort of a folk rock group, very short-lived.
Yeah.
But the other songwriter in the group was Kenny Rogers.
Kenny Rogers was the leader, yeah.
So,
donc, il était dans le Fifth Dimension, qui était donc le groupe de Kenny Rogers, où Kenny Rogers était le leader avant de devenir un artiste vraiment solo, quoi. Mm-hmm.
Kenny Rogers,
great group, man. I really liked them.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est un des mastodontes de la musique country aux USA.
Country pop, d'ailleurs. C'est un des premiers à faire de la country pop, avec Glenn Campbell dans les années 70.
Et quand est-ce qu'il a commencé à se produire sous son propre nom?
And under your own name, when did you start performing under your own name, Amos?
1980.
En 1980.
Well, no. I started performing in 1976 in a duet.
En 76, comme duo.
With Jeff Muldaur.
Avec Jeff Muldaur.
For 3 years.
Qui était l'ancien de Jim Kruskian, Jug Band, et le mari de Maria, bien sûr.
Mm-hmm. Yeah, Maria Muldaur's first husband.
Et le premier mari de Maria.
Et donc, je suppose que c'est de ce fait qu'il a pu intégrer le groupe de Maria Muldaur et qu'il a pu collaborer avec cette chanteuse.
He's asking me, is it through Jeff Muldaur that you start working with Maria, or did you know her before?
I knew both of them from the Jim Kweskin Jug Band.
Okay, so he les a connus dans le Jim Kweskin Jug Band.
Mid-60s. Coming to Toronto to perform.
Quand il venait à Toronto, déjà à la milieu des années 60. Mm-hmm. Donc là, ça remonte. Hein. Mm-hmm.
Et une autre collaboration essentielle, tu l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, Alain, c'est celle avec Paul Butterfield. Voilà, donc je vais savoir un peu comment il s'était rencontré. Et puis,
how did you meet Paul Butterfield and start working with him, in fact?
Well, I moved to Woodstock, New York in 1969 to form a band with Jeff and Maria Muldaur.
OK, donc il est allé à Woodstock en 69 pour monter un groupe avec Jeff et Maria Muldaur.
Yeah. A band that was very short-lived because they got divorced.
Is that Hungry Chuck you're talking about? Hungry Chuck? Is it this one?
No, it was just the Jeff and Maria Muldaur band.
Ça s'appelait Jeff et Maria Muldaur band, donc.
Yeah, and it was them, myself, Bill Keith, the banjo player and steel player. Billy Mundy, who was the drummer.
Ah, Billy Mundy à la batterie.
Mothers of Invention.
Qui était chez les Mothers of Invention et dans Rhinocéros, après.
Yeah.
Et puis Bill Keith, qui est une légende du bluegrass et de la musique country américaine, qui est un banjoïste et pédalcile guitariste bien connu.
Well, when I moved to Woodstock, I rented a cabin in the woods on a little dirt road about a mile outside of Woodstock. And at the end of the road was Paul Butterfield's house and his wife Kathy.
Donc au bout d'un chemin, il a loué une cabane en rondin à côté de Woodstock. Et il se trouve qu'au bout du chemin habitait dans une autre cabane en rondin Paul Butterfield et sa femme de l'époque. Voilà.
Yeah, and we just became social friends.
On a commencé à se voir en tant que copains, quoi.
For about a year.
Pour une année.
And then when the Jeff and Maria band broke up, Paul, just at the same time, he broke up his. His big horn band. He was having trouble touring with a band that size. And we were sitting in a local bar one night. None of us had we were trying to come up with the next reinvention. And we decided, well, this would be an interesting start for a band. We'd be Butterfield and myself and Jeff. You know, and then we talked to... We were all managed by the same person, Albert Grossman.
Grossman.
And Albert liked the idea, and then we fleshed the band out with some other players. And Better Days was born.
Ok. Donc il habitait à Woodstock avec toute cette bande. Et quand le groupe de Maria Muldaur et Jeff Muldaur s'est cassé la gueule, Butterfield en avait marre de son groupe où il y avait des cuivres et qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était donc le Butterfield Blues Band, mais avec des cuivres en plus. Il a décidé d'arrêter. En discutant un soir dans un troquet du coin, ils ont décidé de monter un groupe avec, au départ, Jeff Muldaur, Amos et Paul Butterfield. And then, how did you add other people like Ronnie Barron, for example? Comment est-ce que tu as...
Albert, we didn't know Ronnie.
Tu connaissais pas Ronnie Barron, qui ensuite a été le pianiste.
Yeah. Albert Grossman knew him from somewhere.
Mais Albert Grossman, qui était le producteur de Tout ce joli monde, yeah, le connaissait de quelque part.
And he suggested... He suggested Ronnie.
Il a suggéré
to us, and it's, he sounded very interesting. He was also the person that invented the Dr. John persona, character. But he didn't want to be Dr. John. And he grew up with Mac Rebennack, and he suggested to Mac, he says, do you want to be this character? And so it would be this fictitious voodoo master and stuff. But anyhow, Albert turned us on to Ronnie, and I... The bass player, Billy Rich, who's one of the greatest bass players in history, I'd done recording sessions with Billy before. And Paul knew him, and we had a hard... We tried a couple of different bass players, and it didn't work. And we were back in the same bar called Deanie's one night.
Deanie's?
Yeah, in Woodstock. And Paul and Jeffrey and I were in there, and we were going, like, who are we going to get we got to get a bass player. We got to get a really, really good bass player for this band. He's a great one. And then I remembered Billy from this recording session that I did with John Simon.
Donc, ils étaient dans ce bar. Yeah. I have to try to translate step by step because it's going to be too much.
Yeah. Yeah.
Donc, ils cherchaient un bassiste. Ils en avaient essayé plusieurs. Et puis, ils avaient vu ce type-là dans une séance. Et finalement, ils s'étaient dit que peut-être il ferait l'affaire. Donc, Billy Rich. En ce qui concerne Ronnie Barron, c'est un type natif de la Nouvelle-Orléans, pianiste, organiste, chanteur, qui était un copain d'enfance, même de Mac Rebennack, autrement dit Dr. John, et qui avait suggéré à Dr. John de faire ce personnage de voodoo doctor, parce que lui-même ne voulait pas le faire, Ronnie Barron. Et finalement, c'est Dr. John qui l'a fait. And what about the drummer?
He was a local, he was a lot younger than us, Christopher Parker.
C'est un
great drummer. I never heard him play, but Paul had heard him. Christopher was in a local band, and Christopher was also a very serious art student. He's a very famous painter today.
Maintenant, il est un peintre très célèbre, ce batteur qui s'appelait Christopher?
Christopher Parker.
Parker.
Yeah.
Et qui jouait dans des groupes locaux, il était plus jeune qu'eux.
And Paul had heard him playing in a local band.
Et Paul l'avait entendu avec des groupes locaux, justement, il le trouvait intéressant. Et c'était un étudiant en art, justement, il est devenu donc un peintre célèbre.
Alors avant de passer un nouveau morceau issu de l'album d'Amos, je voulais aborder une autre collaboration très importante à mes yeux, okay, avec quelqu'un qui je trouve pas suffisamment connu en France, hein, c'est Doug Sam, hein, okay, qui est un grand artiste américain qui savait mêler avec talent le blues, le rock, la country, à la musique Tex-Mex, il savait tout faire, notamment au sein de Sir Douglas Quintet, le Texas Tornadoes, etc. Donc j'aimerais un petit peu qu'il nous parle de cette période.
Well, can you talk about that period when you start working with Doug Sam and how you met him and how did you decide to start that formerly brothers band?
Yeah, it had a lot to do with Holger Peterson, and that Holger had licensed one of Doug's albums for Canadian distribution, and around the same time, it was the 10th anniversary of the label of Stony Plain.
Donc ça va beaucoup avec Holger Peterson qui à l'époque fêtait environ le 10e anniversaire du label Stony Plain qu'il avait créé, et il avait pris sous licence pour le Canada un album de Doug Sam.
And Holger decided to have a sort of a celebration of the anniversary in Toronto.
Donc à Toronto, Holger avait décidé de faire une partie à Toronto pour le 10e anniversaire.
And there's a street in Toronto called Queen Street West, which has a lot of nightclubs very close together.
Donc à Toronto, il y a une rue qui s'appelle le Queen's?
Queen Street.
Yeah. Okay.
And Holger set up a situation where a whole block of Queen Street nightclubs had Stony Plain record acts in it all week.
Wow, donc pour toute la semaine, les nightclubs de tout un pâté de maisons de Queen Street avaient un accès particulier pour des artistes, for Stony Plain artists or records only?
Artists.
Pour les artistes Stony Plain qui jouaient là, donc, dans différents nightclubs.
Yeah, in live performance. And Doug was one of them.
Et Doug Dogsam était l'un d'eux.
And Holger and I sort of put together a band to back Doug.
Donc ils ont...
Which included Gene Taylor, the piano player,
ah, okay,
from
donc,
the Blasters.
Donc Amos, Holger Peterson, mm-hmm. ont monté un backup band dans lequel il y avait notamment Gene Taylor, un autre pianiste bien connu originaire de la Nouvelle-Orléans.
Mm-hmm. And the rest was a bass player and drummer from the Edmonton Folk Festival band.
Et les autres, c'était le bassiste et le batteur du backup band du Folk Festival d'Edmonton, okay, dans l'ouest, dans l'Alberta.
Yeah. So anyhow, we had a great week playing with Doug, and Doug loved it. And,
ils ont tellement aimé ça que
so we decided to
ils ont décidé de faire un disque et de faire un band informel, mais yeah. existant quand même.
And we just made one record. And we did two tours. We did a winter tour of Canada. That was a bad idea. Yeah. Especially because of Doug. Doug was petrified of driving
sure.
in winter
Texas
conditions.
Texas guy, yeah.
Just because he's from southeast Texas. And he didn't do snow.
Donc ils ont fait un disque, et puis sur ce disque, après ce disque-là, ils ont décidé de faire deux tournées. Une tournée d'hiver du Canada, ce qui était complètement yeah. une folie, vu que Doug Sam était du sud-est du Texas. Oui, la neige, ça n'allait pas avec lui. Yeah. Il était complètement pétrifié de froid. Yeah. And the other tour was worse.
Japan.
Un tour de Japon.
Ouais, après, il existe d'ailleurs un album live, je crois.
With the live album was cut
yes.
there?
Yes.
Yeah, okay.
Also with Rocky Morales.
Ah.
And, but that was a different band. That was Doug's own band.
Rocky
His
Morales.
Texas band, yeah, yeah, yeah. And Rocky got lost. We lost Rocky in Tokyo.
Et Rocky Morales, c'était
31 million people. We lost Rocky.
Un grand saxophoniste Tex-Mex. Yeah. Ils l'ont perdu à Tokyo.
It's hard to lose a 6'3" Mexican in Tokyo, I'll tell you.
C'est dur de perdre un mec d'1m85, un Mexicain à Tokyo, mais ils l'ont perdu. And how did you find him back?
I don't know. We were panicked. We had this show to do in the Kudan, which is a 1,000-seat concert hall.
Il veut faire un show dans une salle de 1,000 places.
And our promoter,
et producteur.
Rocky used to carry 4-quart bottles of vodka in a shopping bag with him at all times.
Oui, comme c'était un extrêmement grave alcoolique,
yeah.
qui est mort depuis d'ailleurs.
Yeah,
il avait l'habitude de trimballer avec lui 4 bouteilles de vodka dans un sac.
Yeah, and he would wander off. You had to watch him. And he would play fantastic. He's yeah. so beautiful, one of the greatest saxophonists
c'est vrai, c'est un super
ever
saxophoniste.
Came out of Texas. But we lost him, and then the promoter, he must have had 200 people combing.
Et le producteur
But, that's nothing.
Avait au moins 200 personnes qui cherchaient le mec dans tout Tokyo.
You could have 20,000 people combing Tokyo. Yeah. Tokyo's the size of...
Et Tokyo, c'est la taille de 10 fois Paris, quoi.
More than 10 Paris. I mean, it's unbelievable. And they found him.
You had to call the local.
And there was no cell phones then.
You had to call the local mafia. That's the only way to find
yeah.
the guy there. Probably.
Yeah, they probably did.
Ils ont peut-être fait ça. Ils ont dû appeler la mafia locale japonaise. Mm-hmm. Comment ils appellent Yakuza, voilà, c'est ça.
Parce que c'était en
Yakuza. Yeah.
C'est peut-être en souvenir de toute cette période que Amos a décidé d'intituler l'un des morceaux de son dernier album distribué en France, Sam's Song, que je propose d'écouter immédiatement. C'est la plage 2 de ce disque qui se nomme Michigan Water Blues.
Here's a happy tune you love to croon. They call it Sam's Song. It's catchy as can be, the melody. They call it Sam's Song. Nothing on your mind, and then you find you're humming Sam's Song. Why, it makes you grin. It's under your skin, as only a song can do. People that you meet out on the street, all whistling Sam's Song. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you never go wrong if you learn to croon this happy tune. They call it Sam's Song.
here's another inimitable version of this classic melody, sung by Mr. David the Shoe Wilkie.
Thank you, please don't rush the stage.
Here's a happy tune.
That'll bring you a smile all the while when you croon it, you're really in style, and the title is
Sam Song. Sketch is gonna be
the sly little beat and the melody sweet, keeps you tapping your feet, and the title is
Sam Song. Nothing on your mind
but the news of the day and the bills you must pay. Keep your hair turning gray, but you're still humming Sam Song. Why it makes you grin, gets under your skin, as only a song can do.
Oh, people that you meet,
hello Joe, what you know, and remind me to mow. Tell him business is slow and I'm whistling
Sam Song. Everyone you see
has a story to tell or a gimmick to sell, but agree that it's swell and it's really a grand song.
So forget your troubles and wear a smile. You'll find you never go wrong if you learn to croon like a lark in the park, who is making his mark, serenade in the dark with a chorus of Sam Song.
Sore, but you know, I used to be quite a hoofer in my day, so,
tapping?
Yeah, I'm a, you know, I stand back. I learned this one from Astaire himself.
Wow. You knew Fred Astaire?
No, not exactly Larry Astaire from the Lumber Esso Station.
Well, hey, listen, here's a surprise for you. This is one I learned from Kelly.
Not the Gene Kelly. Just look out for the control room window.
No, Red Kelly.
Stand back.
Hey, Dave, let me get that door for you. He's dancing right out onto the street. Hey, look out!
So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon this happy tune. They call it Sam Song. If you learn to croon this happy tune, they call it Sam Song.
Et plus les minutes passent, plus nous rendons compte que nous sommes aux côtés d'une véritable institution de la musique,
chargée d'histoires à raconter,
ne serait-ce que durant le morceau. Tu peux peut-être, parce que c'était quand même assez hilarant, rapidement un petit peu résumer ce que nous expliquait Amos.
Ils prétendent avoir appris, chacun, le mandoliniste et lui dans ce groupe-là, avoir appris les claquettes. Hein. L'un, il dit, t'as appris avec Fred Astaire. Il dit, Fred Astaire, non, c'est machin Astaire qui tient la station-service là-bas. Et puis l'autre lui dit, mais t'as appris avec qui, toi? Avec Gene Kelly, ou c'était le contraire, je sais plus. Il dit, non, c'est Red Kelly. Red Kelly, il explique à Moss que c'était un joueur de hockey très violent et très connu, qui cassait tout sur son passage, donc il... En l'occurrence, c'est un disciple de Red Kelly, il passe à travers la vitre de la cabine de contrôle, hein, puis ensuite il va jusque dans la rue, il se fait écraser par une voiture. Voilà. Donc les bruits que vous avez pu entendre.
Alors, on va encore poser une ou deux petites questions à Amos. Alors, la première, par
Couple
rapport à son jeu de guitare qui est très particulier, hein, yeah. Qui aime sa spécificité.
About your really very d'où ça vient,
tu le dis toi-même d'ailleurs, Leadfoot, de temps en temps, on a l'impression qu'il joue en slide, mais sans bottleneck. Il a vraiment un toucher très particulier. D'où lui vient ce jeu?
How did you develop that style that you play bottleneck without bottlenecks, string bending like a pedal steel with no pedal steel, and all the rest, man?
Some of it came from the first time I ever played with a pedal steel guitar player.
Première fois, c'est
in a band.
Quand il a joué avec une pedal steel qui s'appelle Buddy Cage,
yeah,
qui était avec le New Riders of the Purple Sage, notamment.
Yeah, and at that time, the Ian and Sylvia band.
Avec qui il était avec Ian et Sylvia à l'époque.
And I wanted to be able to double or harmonize some of the pedal steel.
Il voulait doubler, harmoniser des patterns, des figures de pedal steel, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses bends démoniaques.
Yeah. But it wound up not sounding exactly like a steel, but it worked with a steel, but it also worked without it.
Voilà, il s'est aperçu que ça marchait avec la steel et sans la steel dans différents styles de musique. Voilà.
Et est-ce qu'il pourrait simplement un petit peu nous parler de ses projets
And what are your projects now, Amos, for the coming month and years?
Over the winter, I'm going to record my first modern jazz album.
Pendant l'hiver, il va enregistrer son premier album de jazz moderne avec une autre formation que
I'm evolving, I'm going up one more step up the evolutionary scale.
Voilà, il évolue le long de l'échelle de l'évolution, il dit.
Up to the level where there's no work. There's no work at all. You just play.
Juste au niveau où il n'y a plus de travail à faire, c'est juste on joue, on n'a plus besoin de travailler son instrument.
Yeah. And next year, I'm probably going back to Japan. Japan is very, very good to me.
Et l'année prochaine, il va retourner au Japon. Il était encore déjà cette année. Le Japon est un territoire où les gens l'adorent.
Yeah, I toured Japan this spring and also in the spring of 2007, I did 20 concerts in 22 days.
Il a fait 20 concerts en 22 jours en 2007. Yeah. Il y est retourné cette année et il y retourne donc l'année prochaine.
And I'm going back with next year with a most likely with a reunion of the Jeff Muldaur Amos Garrett duet from the 70s.
Et l'année prochaine, ce sera avec
Japan.
Le duo Jeff Muldaur Amos Garrett, but with a band, not only the two of you.
The two of us with a Japanese band.
Avec un groupe japonais pour les accompagner.
And hopefully, I come back here, and maybe to the UK next summer for a few festivals.
Et peut-être l'été prochain aux États-Unis, en Angleterre l'été prochain. Il y a quelque chose de prévu avec une bande de vieux briscards de blues de la scène anglaise. Mm-hmm. Et peut-être ici aussi, donc vous êtes en train d'élaborer
ça. C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que Amos a un petit peu touché à tous les styles de musique, à chaque fois avec talent. Hein. Il a enregistré avec Emilio Harris, il a fait de la country music, il fait blues, il se lance dans le jazz. C'est quelqu'un qui sait tout jouer. Mais
tous les styles, avec son style.
En gardant sa patte, c'est vraiment ce qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Hein. Voilà, on lui demandera un petit mot de la fin plus tard dans l'émission, mais auparavant, j'aimerais un petit peu profiter de ta venue également à toi, Leadfoot Riley. Alors, ton dernier album, on a souvent fait la promotion dans l'émission, tu le sais bien, on en passera un petit extrait tout à l'heure, mais j'aimerais que tu me parles d'un nouveau projet qui est sorti, qui a vu enfin le jour, concernant des vieilles bandes très particulières que tu avais soigneusement gardées.
Bah, il se trouve que ces bandes en question, c'était d'ailleurs même pas des bandes, c'était une cassette qui datait de 1977, à l'époque où je tournais en trio acoustique accompagné par un banjoïste qui était tout d'abord G.G. Van de Stock, qui jouait avec un groupe de country de l'époque qui s'appelait Wells Fargo, qui enregistrait pour RCA, et puis Patrick Verbeek, avant qu'il ne démarre sa propre carrière. Et donc je les appelais mes deux flamands, Van de Stock et Verbeek, mon orchestre belge, je les appelais. Et c'était assez sympa, et on enregistrait principalement en français à l'époque, des originaux que j'avais composés moi, avec ou sans Patrick Verbeek, quelques-uns même avec Alain Bachung, et puis aussi quelques autres titres, une adaptation sur la cassette en question de Bob Dylan, qui s'appelle Recherché pour Wanted Man, c'est la traduction littérale, et puis aussi quelques titres de Bachung et Daniel Tardieu, qui était mon parolier et qui est devenu celui d'Alain ensuite. Et même un titre d'un type particulier qui n'a pas fait carrière et qui était vraiment intéressant, très influencé par Ray Cooder et Randy Newman, qui est Cyril de Turckheim, qui est le cousin germain de Charlotte de Turckheim, qui a failli, à l'époque, je les avais présentés à Gérard Manset, et Manset voulait produire un album de ce mec-là. Et pour, ils s'entendaient bien, et pour, ce qui est pas facile avec Gérard Manset, hein. Et pour une certaine raison, je ne sais plus, pour une histoire financière, je pense, ça a capoté, voilà. Donc j'ai retrouvé ces bandes-là quand mes parents sont morts dans un grenier, sur une cassette, le son était assez particulier, un peu bizarre quand même. Et j'ai décidé que, malgré tout, ça valait le coup d'être édité, parce qu'il y avait quand même des chansons dont les textes en particulier étaient vraiment bien foutus. Et puis c'est que notre cette collaboration avec Bachou entre autres quoi, voilà. D'ailleurs depuis j'ai retrouvé encore maintenant des bandes, des vraies bandes où on est en duo avec Patrick Verbeek et où on fait pas mal de chansons dont d'autres chansons inédites de Bachou avec des vieux textes de Jean Fauque et de Daniel Tardieu. Voilà.
Et donc comme tu le disais c'est toi qui a mis en relation Jean Fauque et Bachung.
Daniel Tardieu et Bachou, oui, à l'époque. Oui. Jeannot, pendant très longtemps, est devenu le meilleur copain d'Alain. En plus, ils habitaient à 300 mètres l'un de l'autre à Saint-Cloud à l'époque. Ils se voyaient tout le temps. Ils avaient un amour immodéré tous les deux de l'herbe. Hein. Et il faut, disons les choses comme elles sont. Pendant les premiers temps, Jeannot était l'ami et le rouleur officiel de joint d'Alain Bachou pendant des années. Et puis ensuite, il est devenu son confident. Ils avaient essayé au départ de travailler ensemble sur des premiers textes de Jeannot, mais qui étaient assez poétiques, qui correspondaient pas très bien à ce que Alain voulait faire à l'époque. Puis ensuite, 20 ans après, quasiment, un jour, Alain a demandé à Jeannot d'essayer d'écrire avec lui. Et ça s'est fait, et ça a fonctionné, comme ils se connaissaient bien.
Alors, ce fameux disque, par quel moyen peut-on se le trouver hein?
On peut le trouver par mon site, www.ledfoutrivet.com, en vente par correspondance. On peut le trouver aussi sur un autre site qui s'appelle City Mail, qui est une boîte de vente par correspondance de tous les styles de musique. Pour l'instant, c'est les deux seules façons de se les procurer, ou alors au concert, bien sûr. Voilà. Ça s'appelle Plage Retrouvée, puisque ce sont des plages discographiques, en effet, qui avaient été perdues.
Alors, quand même un petit avertissement vis-à-vis de nos auditeurs. Hein. C'est vrai que c'est un document hyper intéressant.
Oui.
Je l'ai écouté cette nuit.
C'est comme un collectage, c'est un field recording. Quoi.
C'est vrai que le son n'est pas forcément au
top. On l'a corrigé comme on a pu, voilà. Parce que c'était pillant.
Ce sont des petites sessions entre amis, entre musiciens.
Voilà,
qu'on
avait fait pour démarcher à l'époque les maisons des jeunes, les cafés-théâtres, etc.
Et est-ce qu'il existe des enregistrements, des captations live de cette période où vous êtes enregistré de temps en temps?
Non, pas que je sache. Non. Ça, c'est le seul truc qui ressemblait à du live, puisqu'on l'avait enregistré en répétition, tout simplement. Et puis, autrement, il y a les fameux 20 titres que j'ai retrouvés, qui avaient été enregistrés comme solde de tout compte chez RCA, à l'époque où j'étais en contrat chez eux, avec Patrick Verbeek, donc...
Et qu'on aura peut-être alors une occasion peut-être, de
peut-être, si la bande est encore en assez bon état, j'espère pouvoir le mettre dehors.
Alors, avant de passer le micro à un autre de nos invités, en l'occurrence Slim Batteux, on va se passer un morceau, non pas des Plages Retrouvées, mais de ton dernier album en date, qui s'appelle Grey Boy Blues.
Je voulais juste faire une précision, donc je viens aussi de sortir un DVD,
exact,
enregistré au New Morning il y a 5 ans, avec qui était à l'époque enregistré pour la chaîne Mezzo, la chaîne thématique musicale, et dont j'ai obtenu les droits et j'ai décidé de le sortir aussi sur Voodoo Dixie Frog et de s'en vendre sur le site de Voodoo Dixie Frog qui est Blues Web voilà, et sur mon site aussi.
D'accord, c'est bien de le préciser.
Voilà.
Et on s'écoute tout de suite un extrait de ton dernier album Let Foot In avec l'ami Neil Black. City, another show, another
dollar paycheck girl. Every time I get to hold it. Telephone girl, I said, baby, don't you worry. In the morning, I'm coming home, and you're the reason I'm always in a hurry. When I see you, baby, I'm gonna drop this heavy load of mine, 'cause you're the only rainbow girl waiting at the end of my long road.
Je vous rappelle que vous pouvez déjà retrouver des interviews de nos trois invités du jour sur notre site internet, sur laroute66.free.fr, puisque j'avais déjà eu la chance de rencontrer Amos Garrett il y a de cela quelques années au Spring Blues Festival, où Monsieur Alain Rivet m'avait gentiment prêté sa camionnette afin que je puisse enregistrer l'interview dans des conditions à peu près correctes, hein, puisque c'est vrai qu'on était juste derrière la scène et qu'il y avait énormément de bruit. Alain, évidemment, c'est un habitué de l'émission. Il y a des interviews de lui en ligne, ainsi que des vidéos. Et puis, il y a une interview également de Slim Batteux que j'avais enregistrée. Alors, je ne sais plus exactement où. C'était peut-être au New Morning, après le concert Planet Janice de Beverly Joe Scott, ou alors sur cette tournée, peut-être à un autre endroit. Mais j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer.
Oui, ouais. J'ai un petit enregistrement que j'ai reçu.
D'accord, mais pas possible.
Je me souviens plus, c'est.
Alors, Slim, c'est quelqu'un vraiment de plutôt timide. Il aime pas trop parler, hein. Il m'a dit, je te préviens, je veux bien parler, mais faut me faire boire, hein. Donc tu verras que j'ai ramené des munitions. Donc si tu es trop silencieux, j'aurai les moyens de faire sortir les mots de ta bouche. Non, okay. Slim, comment le présenter finalement? C'est quelqu'un de tellement énorme dans la musique française, modeste. C'est vrai qu'il a perdu, mais quel talent. Organiste.
Oui, oui.
Chanteur.
Oui.
La première question qui me vient à l'esprit, te connaissant pour t'avoir vu souvent sur scène ou entendu sur des disques, pourquoi il n'existe pas d'album solo Slim Batteux? C'est un mystère complet pour tous ceux
vrai.
Qui t'admirent.
Bah, d'abord, on ne me l'a jamais proposé. Et puis, je n'ai jamais eu le courage de m'affronter seul à ça. Mais c'est vrai, j'ai un petit manque là-dessus. C'est vrai que j'y pense quelquefois. Mmh. J'aurais de quoi faire d'ailleurs, mais je sais pas, peut-être je me dis que qui est-ce qui va s'intéresser à ce que je fais, j'en sais rien.
Ah, plein de gens, hein, je t'assure.
Oui, peut-être, mais j'ai jamais eu Cela dit, peut-être que j'en ferai un. Ouais, oui, c'est pas bête. Pas bête.
Est-ce qu'il t'arrive de composer de temps en temps
De piano, moins en moins, ouais. Mais à une époque, je faisais pas mal de choses. Donc j'ai toujours un petit peu de titres sous le coude. Mais en ce moment, non, un peu moins, un peu moins.
Et comme on n'a plus beaucoup de temps, là, j'aimerais quand même un petit peu évoquer ton activité actuelle. Et dans un premier temps, bon, tu tournes actuellement avec Amos Garrett dans des configurations assez réduites, hein, tu fais des clubs, etc. Et pour toi, ça a été une approche complètement différente, ou alors au contraire, c'est pour toi, c'est le même taf que si tu jouais devant 10 000 personnes ou est-ce que tu prends même plus de plaisir à accompagner quelqu'un comme Amos Garrett, qui est un grand artiste de variété qui passerait devant beaucoup de gens?
De toute façon, oui, puisque déjà la musique d'Amos est plus proche de ce que j'écoute et de ce que j'aime faire. Dans la chanson française, je ne peux pas dire que... Bon, j'en ai accompagné beaucoup, mais j'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec Beverly Joe Scott ou Percy Sledge, parce que c'est des musiques qui me touchent beaucoup plus, quoi.
Tu as également, je crois, eu l'occasion d'accompagner Ray Charles sur disque.
Pas accompagné, disons
comment
que
ça s'est passé cet enregistrement
Je figure sur un album pour un titre qui c'est Imagine de Lennon. En fait, c'était... Je travaillais à l'époque avec Paul Breslin, qui est un guitariste-chanteur et qui a pas mal composé, enfin qui a fait des textes pour Ray Charles, pas mal de... beaucoup travaillé. Et il était donc sur cette... une pub, en fait. C'était une pub pour je ne sais plus quelle banque, on s'en fout. Et on a fait donc cette pub ensemble. Et après, Ray Charles a décidé de le mettre sur un album qui était produit par...
Papa Diamandis, non? C'est pas ça
Non, et c'était produit par son producteur français. Comment il s'appelle déjà Ouais, enfin, qui produisait des disques en France de Ray Charles.
Ouais, qui a également sorti l'Olympia, je crois.
Oui, il a sorti
en solo. Voilà. Non, on ne revient pas immédiatement.
Ouais, ouais. Ouais,
fait.
Non. Enfin bon. Je me suis retrouvé donc crédité sur un album de Ray Charles. Ça fait. C'est bon pour le CV.
Pour le CV, hein,
ouais. Enfin, je n'ai malheureusement jamais pu le voir. Bah, lui non plus d'ailleurs, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de très sympa. Ouais.
Et actuellement, quelles sont tes autres activités en cours? Toujours avec Beverly Joe Scott?
Oui, toujours, oui. Ouais. Là, les prochains concerts, ce sera avec elle d'ailleurs. Elle est aux États-Unis pour l'instant, mais elle va rentrer bientôt, donc on va un concert en fin de mois. Pas mal en Belgique d'ailleurs.
Bien sûr. Et puis. Tes petits groupes pour le plaisir, j'ai envie de dire, entre guillemets, sur Paris.
Oui, hein, on a parlé tout à l'heure. Ou le Lighthouse, on joue aussi le vin à l'Utopia, le club où on peut encore fumer. Et puis Desktop, au Baiser Salé, toutes les fins de mois, en général, tout le dernier vendredi de chaque mois.
Franchement, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'assister à un de ces concerts, je vous le recommande vivement, hein, que ce soit à l'Utopia ou au Baiser Salé, puisque vous avez devant vous quelques-uns des plus grands musiciens français, tous amoureux de la même musique, qui se réunissent et qui s'amusent, qui se font simplement plaisir. Sûr. Il y a une ambiance d'enfer, et puis on a l'impression d'être devant un jukebox vivant, humain, qui se met en route, et ça dure jusqu'au bout de la nuit, et on prend vraiment son pied, hein, si vous me passez l'expression.
Nous
c'est,
aussi,
c'est à chaque fois des grands, grands, grands moments.
On perd le bois jusqu'au bout de la nuit.
Et voilà pour les prochains projets. Donc Beverly Joe Scott, c'est le... ça va être les prochains travaux là, en cours. Niveau enregistrement également pour un nouvel
c'est
album.
C'est fait, on est en train de finir un album sur Planet Janis, sur Janis Joplin, donc le concert qu'on fait aussi en ce moment. Et puis... probablement aussi un sur Woodstock, on est un autre spectacle qu'on fait avec BJ d'ailleurs.
D'accord. Voilà. Alors le moment va venir de conclure l'émission. Alors auparavant, j'aimerais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent en direct qu'il est encore possible d'aller voir tout ce beau monde au Kafkons d'Ensisheim le mercredi 14 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent en direct, à partir de 21h. Surtout ne ratez pas ça. En plus, je crois qu'en première partie, il y aura des moules frites. C'est assez un groupe, on connaît pas quoi. Mais voilà. Donc surtout ne ratez pas ce grand moment qui s'annonce. Voilà. Alors avant de terminer en beauté, j'aimerais quand même vous annoncer qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec en principe un autre invité encore une fois. Et surtout vous pouvez nous retrouver sur notre site internet sur laroute66.free.fr. On va se quitter en beauté et en musique avec Slim Batteux, on va quand même l'écouter, extrait de cette compilation Autour du Blues. Ça aussi c'était un très joli concert. concept et un morceau que tu as enregistré avec plein d'amis à toi. Et c'est toi qui l'interprètes, c'est un titre de Ray Charles. Tu vois de quel morceau je veux parler, je suppose.
Oui.
And That Peculiar, si je le prononce bien.
Alors, ça, c'est Marvin Gaye, alors.
C'est Marvin Gaye, pardon, ouais, Marvin Gaye. Ouais, là, on revient dans la maison Motown, autant pour moi. Par contre, puisque tu es là, je vais te laisser le mot de la fin. Mais pour le fun, j'aimerais que tu me fasses un mot de la fin en Sioux. Parce que Simon est un grand amateur de la culture amérindienne. Il parle le Sioux, comme je l'ai dit, il a même écrit un ouvrage, Comment parler le Sioux. Ouais. Donc j'aimerais simplement que je te laisse antenne ouverte. Tu as quelques secondes et tu lances le morceau en Sioux. Salut à tous.
Slim Amachi Apelona. L'elwa onkele. Lila washtelona. Na. Lila iomakipri. Na hey hetchetu walo.